Je veux qu'on revienne sur un article de la presse ce matin sous la plume de Philippe Tessera-Lessard. Écoutez, c'est l'histoire épouvantable d'une femme, Fatima Gossa, qui est devenue paralysée et prisonnière de son corps, là, littéralement, après avoir été battue par son conjoint. Et donc, après des années de souffrance, elle a voulu mourir. On peut la comprendre. Mais elle n'était pas accessible à l'époque aux dispositions de l'aide médicale à mourir. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bien, elle a fait ce que d'autres personnes font quand faisaient. Quand les critères d'accessibilité à l'aide médicale à mourir étaient pas mal plus restrictifs, Mme Gossa s'est laissée mourir de faim. L'horreur ne s'arrête pas là. Les ambulanciers ont été dépêchés sur les lieux une première fois par un proche de Mme Gossa qui refusait qu'elle meure, qu'elle ait fait ce choix-là. Et la première fois, quand ils sont arrivés, à l'hôpital, les ambulanciers ont compris, sont retournés, ont été rappelés le lendemain. Et cette fois-ci, ils ont mis en place un protocole et ils ont donné des soins de force pour la sauver à Mme Gossa et ils l'ont réanimée. On en parle immédiatement avec Stéphane Smith, qui est le porte-parole d'Urgence Santé. Monsieur Smith, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, écoutez, en vertu d'un protocole là, qui s'appelle MED-LEG3, les ambulanciers peuvent intervenir dans un cas comme ça où une personne a choisi de mourir?
En fait, on va parler de la situation en tant que telle. Donc, quand les paramédics sont appelés sur cet événement-là, pauvre madame, d'ailleurs, c'est une histoire qui est tellement triste, eux arrivent, rencontrent le personnel du centre et démontrent, le personnel du centre leur fournit un document comme quoi la dame ne veut pas de réanimation. Par contre, en même temps, au même moment, il y a un membre de la famille très proche qui, lui, à ce moment-là, demande que les manœuvres soient entreprises. Donc, à ce moment-là, quand il y a une discorde entre les deux, nous, on est obligés de procéder aux manœuvres de réanimation.
Je vous arrête juste une seconde. Quand vous dites une discorde entre les deux, identifiez les deux parties, là.
Donc, on a le centre qui, eux, ont le document du curateur et un membre de la famille très proche, dans ce cas-ci, c'est le père de la dame, qui demande à ce qu'il y ait des soins et qu'il y ait une réanimation qui soit faite sur sa fille.
OK, mais ça, les ambulanciers qui sont dépêchés là, sur les lieux, ils prennent cette décision-là, ils prennent le bord du père là, en vertu de quoi?
En fait, ils n'ont pas le choix. C'est automatiquement pour toute la province. Quand il y a une situation où ce qu'on arrive sur les lieux d'un arrêt cardio-respiratoire et qu'il peut avoir un document, mais qu'en même temps, il y a des membres de la famille ou des membres qui sont sur place qui demandent à ce qu'il y ait des manœuvres. Nous, on arrive évidemment en urgence. On n'a pas le temps de commencer à faire une enquête exhaustive. Donc, le protocole est clair à ce moment-là. Ils entament les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire.
Okay. Juste pour être clair, M. Smith, là.
Oui.
Les employés du centre ont montré aux ambulanciers les volontés de la femme qui est en train de mourir, là.
Oui.
Mais malgré ça, OK, mais c'est ça que je vous demande. C'est en vertu de quoi qu'on prend le bord de la famille qui refuse de respecter les volontés de la personne en train de mourir?
En fait, M. Lagacé, on ne prend pas le bord de la famille. C'est que automatiquement, aussitôt qu'il y a des gens qui sont sur place, qui ont un lien avec la victime ou le patient, et puis à ce moment-là, même s'il y a un document au niveau du ministère de la Santé, chez nous, c'est partout comme ça, on ne peut pas décider qu'on fera pas de manœuvre, même s'il y a un document, parce qu'automatiquement, il y a une discorde. Fait que ce soit un membre de la famille, un ami proche, la personne qui est responsable, le tuteur légal de la personne, si cette personne-là demande qu'il y ait des manœuvres, automatiquement, il va en avoir.
En vertu de quoi?
En vertu de du protocole clinique, justement, de la réanimation cardio-respiratoire, c'est avec le Collège des médecins, le ministère de la Santé. C'est une procédure qui est provinciale.
OK, un cas de figure, OK?
Oui.
Disons que ma mère demande l'aide médicale à mourir demain, là, on va dire le 21 août, OK?
OK. Elle
demande l'aide médicale à mourir à 3 heures. Moi, je suis pas d'accord.
Oui.
Fait qu'à 2h30, j'appelle l'ambulance. Vous allez intervenir là-dedans?
Et si vous êtes sur place, nous, on arrive, vous savez, vous avez sûrement déjà vu ça, là, on arrive avec un moniteur défibrillateur. Là,
oui.
Et ce moniteur-là enregistre justement les voix. Donc, quand on arrive sur les lieux, tout ce qui se passe va être enregistré. Et si vous êtes sur place, évidemment, ça n'arrivera pas demain parce que je suis sûr que votre mère est en forme puis on se croise les doigts. Mais vous êtes sur place puis vous nous dites, moi, je veux qu'il y ait des réanimations. Puis votre mère est à ce moment-là en arrêt cardio-respiratoire, on va procéder.
OK, vous savez que c'est absurde au cube.
Tout à fait. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas des situations qui sont faciles. Là, on a un cas d'une très grande tristesse. Mais moi, je vais vous en donner un autre cas de figure qui se passe à tous les jours. Donc, on arrive dans un domicile privé. On connaît pas personne. Nous, on arrive là, c'est la première fois qu'on voit ces gens-là. On sait pas s'il y a une histoire de testament, d'argent, de vouloir qu'il y ait un décès ou pas. Et là, il y a des gens qui nous disent, ben non, on veut pas que vous interveniez. Puis il y en a d'autres qui nous disent que on veut que vous interveniez. Donc, à ce moment-là, ce qui avait été décidé, c'est qu'on intervenait. Maintenant, est-ce qu'il y a place à amélioration dans une situation comme on parlait, vous et moi, préalablement? Sûrement. Parce que c'est des protocoles qui c'est soit blanc ou noir. Il n'y a pas de négociation.
Mais écoutez, je soumets bien respectueusement, là, M. Smith, là, tout en prenant en considération que les ambulanciers, dans un cas comme ça, là, on comprend qu'ils sont dans un dilemme impossible. Il y a une différence entre arriver dans une maison privée où on ne sait pas à qui on a affaire, arriver dans un centre où on soigne des gens qui sont très, très malades. Et là, les responsables du centre vous disent, la dame qui est là a signé les papiers pour mourir. Elle veut mourir. Voici les papiers. Mais que la directive fait en sorte qu'on prenne le bord du père. Je trouve qu'il y a une différence entre les deux cas.
Je comprends, mais en même temps, encore là, je vous ramène à vous placer dans notre situation où ce que nous, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le centre avant. On ne sait pas que la dame est là depuis des années, ce qu'elle a vécu ou peu importe. On arrive, la seule information qu'on a, c'est qu'il y a un arrêt cardio-respiratoire à telle adresse. On arrive sur les lieux et là, le père de la victime dit non, moi, je veux absolument que vous procédiez. On est qui, nous, pour arriver, dire non, on ne procédera pas, il y a un document, on ne sait pas qui a fait le document, on n'a aucune idée de ça. Nous, la décision se prend immédiatement.
Toujours en prenant en considération là, que vos ambulanciers, M. Smith, sont dans une position difficile. La veille, ils ont été appelés, ça a été le même film. Ils ont été appelés, non? C'est ce que le papier de la presse dit, non?
Oui, c'est ça, il y a une différence entre les deux. C'est que la veille, la dame n'était pas en arrêt cardio-respiratoire. Donc, à ce moment-là, les paramédics n'avaient pas besoin nécessairement d'intervenir dans l'immédiat. Donc, là, il y avait une entente sur les lieux, ça allait bien, il n'y avait pas de discorde. Et là, quand ils ont été appelés, il n'y a pas eu de manœuvre à faire puisqu'elle était vivante encore.
OK. Cas de figure, M. Smith.
Oui.
Les ambulanciers arrivent et ils décident qu'ils croient les employés du centre et ils n'écoutent pas le père. Le pire scénario là, qui aurait pu arriver, là, la pire sanction qui aurait pu arriver à ces ambulanciers-là, s'ils avaient laissé mourir madame conformément à ses vœux, là, ça aurait été quoi?
Mais c'est parce que nous, on ne peut pas arriver puis décider de ne pas faire de manœuvre sur quelqu'un. Donc, on ne peut pas aller, c'est contre notre... Puis là, je ne veux pas tomber dans les procédures et les protocoles, c'est pas ça. Mais un paramédic est formé pour intervenir en milieu d'urgence. Donc, à ce moment-là, lui, il va intervenir immédiatement. Oui. Est-ce que dans la situation qu'on parle, vous avez raison, là, Monsieur Lagacé, là, c'est d'une tristesse, puis non, faut pas qu'il y ait des manœuvres, mais essayons d'imaginer pour vos auditeurs la scène en tant que telle, où ce que vous avez une personne qui supplie qu'il y ait des manœuvres, puis une autre personne qui dit non, on a un papier. Mais c'est difficile à prendre comme décision c'est facile après, puis tant mieux, il y a une enquête du coroner, puis espérons qu'on va pouvoir trouver des solutions alternatives, des meilleures idées. Mais pour l'instant, si je me mets à la place des paramédics au moment où ils l'ont fait, il n'y avait pas le choix.
C'est fascinant. Puis écoutez, je vous le dis, là, je suis encore surpris que vous me disiez, s'il y a un membre de la famille de quelqu'un qui demande l'aide médicale à mourir, là, ce membre de famille n'est pas d'accord, s'il appelle les ambulanciers, ben vous allez réanimer la personne qui vient d'avoir l'injection létale.
Tout à fait. En fait, il va y avoir des manœuvres, pas nécessairement avoir une réanimation, mais il va y avoir des manœuvres. Mais là, on s'entend sur quelque chose. Faut que ça soit... moi, ça m'est déjà arrivé personnellement. Là, j'arrive dans les lieux d'un domicile, puis il y a la famille est là. Oui. Bon, les enfants veulent pas qu'il y ait des manœuvres, puis l'épouse qui est alerte orientée, là, elle veut qu'il y ait des manœuvres. Mais on n'a pas le choix. Même si le père, juste avant de mourir, a dit « ben moi, je veux pas de manœuvres, aussitôt qu'il y a une discorde. » Malheureusement, c'est non négociable pour l'instant. Mais comme je vous dis, il y a des situations qui pourraient être analysées puis justement revues. Il y a toujours place à l'amélioration.
Très bien. Merci, M. Smith.
Merci à vous.
Stéphane Smith est porte-parole d'Urgence Santé. Juste vous dire deux choses là-dessus. Dans le papier de Philippe Tessera-Lessard, là, la coronaire Godin qui juge que ce protocole-là est dépassé, n'a plus sa raison d'être, brime sans raison les droits fondamentaux des personnes qui ont rédigé une directive de non-réanimation et donne un pouvoir décisionnel auquel ils n'ont aucunement droit. Espérons que ça va être changé parce que c'est absurde au point où, vous avez entendu M. Smith, il a répondu oui à ma question. Si quelqu'un demande l'aide médicale à mourir et qu'un membre de la famille n'est pas d'accord, bien, théoriquement, Urgence Santé, si on les appelle, vont venir, vont tenter une réanimation. c'est complètement absurde. Mais c'est méconnu un peu, là, mais les familles ont un droit très, très fort dans certains cas. Pensez au don d'organes. Okay? Vous remplissez là, votre carte de don d'organes comme un bon citoyen en vous disant « si je meurs de façon brutale, subite, ben mes organes vont pouvoir aller à quelqu'un d'autre. » Non, si votre famille s'oppose à l'hôpital pendant que vous êtes aux soins intensifs dans le coma, bien, si votre famille s'oppose, c'est pas votre carte de don d'organes qui a préséance, c'est votre famille qui dit non. Il est 17h18, on va aller parler avec Luc Ferrandez.